Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Jacques Delarosière, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, pour évoquer la dette publique. Jacques Delarosière, bonjour.
Bonjour.
Nous allons évoquer la dette publique telle qu'elle est présentée dans le dernier rapport au gouvernement, le rapport dit Pébro, du nom du président de la banque BNP Paribas, Michel Pébro. Et vous, Jacques Delarosière, vous-même, vous avez participé à ce rapport sur la dette publique, puisque vous êtes justement conseiller auprès de BNP Paribas, mais également, je dois le noter, gouverneur honoraire de la Banque de France et ancien directeur général du Fonds monétaire international. Alors, monsieur Delarosière, ce fameux rapport Pébro sur la dette publique, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un énième rapport, après tout, sur la dette publique? Est-ce qu'il n'y a pas tellement de choses qui ont été proposées sur ce sujet et que rien, finalement, n'a réellement abouti?
Je ne suis pas de cet avis. Je ne crois pas que c'est un énième rapport sur la dette publique française. Je crois que la situation est assez bien connue du point de vue des chiffres, que le thème est récurrent, mais que les solutions, et en particulier les préconisations qui sont présentées dans le rapport, sont nouvelles. Nous avons, bien entendu, en France, beaucoup travaillé sur la dette publique. Les gouvernements successifs ont élaboré 8 programmes de stabilité sous l'égide du pacte de stabilité et de croissance européen. Aucun de ces programmes n'a été respecté, mais je pense que le rapport Pébro comprend des choses très nouvelles et qu'il est l'objet d'une synthèse qui n'a pas été effectuée dans le passé, du moins à ma connaissance.
Alors peut-être nous pouvons revenir sur déjà l'établissement du montant de cette dette qui n'était pas vraiment connue à ce point jusqu'à maintenant. On apprend par ce rapport que la dette atteint les 2/3 du produit national brut et que chaque année l'État rembourse 40 milliards d'euros rien qu'en charge d'intérêt, ce qui est le second poste après l'éducation nationale qui est de 60 milliards d'euros. C'est une comptabilité qu'on n'avait pas réellement faite jusqu'à maintenant.
Tout à fait. Moi, je connais ces chiffres depuis des années. J'ai écrit des articles il y a 5, 6, 7 ans, ou il y a même 10 ans, qui reprennent ces chiffres. Donc il n'y a rien de nouveau dans ces chiffres. Non, ce qui est nouveau, c'est le caractère embrassant de ce rapport. Il s'attaque vraiment aux causes de l'inflation de la dette publique française. Et donc, je pense que c'est un rapport qui est extrêmement important et qu'il est nouveau.
Le rapport Pébro est tout de même assez dur, en particulier envers certains ministères, envers les collectivités territoriales, sur certaines dépenses qui sont reconduites d'année en année, et préconise un plan de rigueur sur les 5 prochaines années, un plan de rigueur qui s'annonce très dur. Est-ce que ce plan de rigueur ne risque pas d'avoir des contre-effets? On peut parler de plan de rigueur ou plutôt de plan de vertu, d'après vous?
Non, alors je suis très étonné que vous me posiez cette question sous cette forme, parce que d'abord le mot rigueur n'est pas contenu une seule fois dans le rapport, et la substance de la rigueur telle que vous la voyez est à mon avis absente également du rapport. Ce que l'on propose essentiellement, c'est de ramener le budget à l'équilibre sur une période de 5 ans, ce qui veut dire de réduire la dépense publique de 1,3% du PIB sur cette période de 5 ans. Moi, j'ai été directeur général du Fonds monétaire, j'ai préconisé des rapports de ce qu'on appelait d'ajustement financier lorsqu'il y avait des situations de dette extrême, et évidemment, ça, c'était sans aucune commune mesure avec 1,3% du PIB sur 5 ans. C'était en général 3 ou 4 fois ça sur une année. Si vous prenez l'exemple de la Finlande ou de la Suède, vous voyez qu'en 5 ans, ce sont des pays démocratiques qui ont des systèmes de protection sociale plus élaborés que les nôtres et qui ne les ont pas sacrifiés, ont procédé à des réductions de dépenses publiques. Dans le cas de la Finlande, de 11,3% en 5 ans et dans le cas de la Suède, de 12,2%. Alors si vraiment les Français croient que de réduire la dépense publique en termes de PIB de 1,3% en 5 ans, c'est une excessive rigueur, alors je crois qu'on est complètement à côté de la plaque.
Ce rapport, il me semble aussi, préconise, vous connaissez ce rapport mieux que moi, il préconise d'éviter le saupoudrage par exemple et de faire un réexamen intégral des dépenses.
Oui, absolument. Je crois que c'est indispensable. Il faut commencer à regarder cette dépense publique. publics, ministère par ministère, de voir ce qui est vraiment essentiel, ce qui est prioritaire, et de se concentrer, pas saupoudrer, de se concentrer sur ce qui est important.
C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir certains ministères qui connaîtraient des dépenses ou des recettes en forte diminution, comme on a pu par exemple le voir au Canada.
Absolument. Et il faut se dire que tant qu'une dépense n'a pas été justifiée devant la représentation nationale, dans un acte budgétaire qui est un véritable acte budgétaire, qui consiste à véritablement justifier les dépenses, il n'y a aucun droit à empiler les ressources budgétaires sur des ressources budgétaires précédentes. Et donc, quand on dit qu'on risque de décourager les prêteurs, c'est complètement faux, c'est l'inverse qui est vrai. La notation d'un pays ou d'une entité financière, et donc la répercussion de cette notation sur le coût de la dette, sur le taux d'intérêt qu'on paye, se détériore en fonction du montant de la dette. Plus la dette est élevée, plus la dette est difficile à soutenir, plus le coût de la dette est élevé. Donc il ne s'agit pas de décourager les prêteurs, ni d'augmenter la morosité. La morosité, elle trouve sa source dans l'absence complète de réforme.
Et d'ailleurs, l'agence de notation Standard & Poor's avait justement réagi très fortement au rapport Pébrot en disant « Si les conclusions du rapport Pébrot ne sont pas appliquées, nous reverrons à la baisse la notation de la France
pour aller dans le sens que vous disiez. » De toute manière.
Ce serait arrivé de toute manière.
Bien sûr, si vous ne contrôlez pas du tout l'élément important qui est la progression de la dette publique dans un pays, il y a malheureusement des conséquences au niveau des marchés.
Des conséquences au niveau des marchés, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences aussi sur la vie quotidienne des Français si on laissait la dette telle qu'elle est.
Si la dette est plus chère, elle absorbera davantage de ressources nationales pour la servir.
Alors qu'est-ce qui bloque en fait cette dette? Pourquoi nous n'avons pas réussi à réformer l'État et la dépense publique jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on pense bien sûr tout de suite aux problèmes conjoncturels, aux éléments conjoncturels qui feraient que cette dette est incompressible? Je pense en particulier aux dépenses liées au chômage, aux dépenses sociales. Ce sont des dépenses qui sont liées au manque de croissance, au manque de création d'emplois et qui renflouent la dette, évidemment.
Oui, il y a dans la manière dont vous posez la question un certain nombre d'ambiguïtés. On distingue en effet les éléments conjoncturels et les éléments structurels dans le déficit budgétaire, et le rapport donne une assez bonne description de ces éléments respectifs, c'est-à-dire les éléments conjoncturels et structurels. C'est facile à comprendre. Quand la conjoncture se modère, les affaires vont moins bien, donc les ressources fiscales qui taxent les affaires et les transactions sont moins abondantes, tandis que, avec l'augmentation du chômage qui coïncide avec les périodes de récession, les dépenses sociales sont plutôt accrues. Donc on est dans des phases de plus gros déficit budgétaire. Et inversement, lorsque la conjoncture reprend et que les taxes rentrent bien, que les impôts sont florissants et que les dépenses sociales sont plutôt moins importantes parce que le chômage se réduit, on devrait avoir des excédents budgétaires. C'est le jeu normal de ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. Alors vous voyez dans le rapport que les éléments structurels, malheureusement, l'emportent de beaucoup sur les éléments conjoncturels. Les éléments conjoncturels sont ceux que je vous décris. Dans les bonnes années, il y a un peu de surplus. Dans les mauvaises années, il y a un peu plus de déficit.
Mais c'est à la marge.
Tout ceci, c'est à la marge. Et tout ceci est en réalité écrasé par le poids de la répétition, qui est structurelle par définition, tous les ans, d'un déficit répétitif et qui est de nature structurelle et qui peut toucher d'ailleurs le fonctionnement des régimes sociaux également. Alors, il est évident que si on laisse cette situation perdurer, l'élément structurel continuant de l'emporter, nous aurons tous les ans un accroissement de la dette, de la valeur de l'accroissement du déficit, qui est de l'ordre de 3,5% par an du PIB, voire 4, et 3,5% selon les années. Et si vous ajoutez tout ça aux 66%, je crois, de l'endettement public par rapport au produit intérieur brut auquel nous sommes arrivés maintenant, vous voyez que la trajectoire est exponentielle. Alors, c'est ce qu'il ne faut pas faire.
Et comment est composé cet élément structurel majoritaire de la dette publique? De quoi est-elle composée?
Elle est composée de la lourdeur du déficit répétitif d'un certain nombre d'administrations ou d'actions administratives qui pèsent sur la situation du déficit. Par exemple, maintenant, nous avons une structure déficitaire des dépenses maladie, ce qui est anormal. Normalement, comme une famille, un système d'assurance maladie devrait équilibrer année après année ses comptes et ne pas reporter le paiement des soins médicaux, des achats de médicaments sur une période de 15, 20, 30 ans sur les générations ultérieures. C'est un exemple parmi d'autres. Ce déficit dans lequel s'est engagée la sécurité sociale, notamment du fait de l'assurance maladie, mais ça sera encore plus vrai des retraites, constituent des éléments structurels qui sont maintenant très importants. C'est eux qui pèsent, comme le montre le graphique auquel je me référais, qui pèsent le plus sur la situation de l'endettement. Le solde structurel, dit le rapport, est constamment négatif depuis près de 20 ans. En moyenne, il est de près de 3% par an de la richesse nationale, 2,9 pour être précis. Alors, il est évident que si vous empilez 3% de déficit structurel qui, eux, ne changent pas avec la conjoncture, parce qu'ils sont là pour être là, tous les ans, vous aboutissez à des impossibilités mathématiques.
Pour prendre la santé, est-ce que, par exemple, cet élément est lié aussi à la démographie vieillissante
bien sûr,
de la France ?
Bien sûr, tout à fait. C'est d'ailleurs un des éléments essentiels de l'analyse. Mais c'est pas parce que vous avez une démographie vieillissante que vous devez nécessairement résoudre le problème de la santé par le recours à l'emprunt, qui par définition ne devrait s'effectuer que s'il finançait des ressources qui étaient capables de générer des revenus futurs, ce qui n'est pas le cas de l'achat de médicaments pour la génération actuelle.
Alors parlons de la réforme possible des dépenses des ministères et des collectivités locales. Est-ce qu'il n'y a pas un fonctionnement inhérent de ces collectivités locales et des ministères à reconduire des dépenses chaque année qui font que effectivement la dette se poursuit? Et on voit effectivement parfois les ministres qui viennent eux-mêmes à l'Assemblée nationale pour défendre leur portefeuille, qui viennent pour défendre leur budget. Est-ce qu'il n'y a pas un fonctionnement, une machine qui tourne inhérente comme ça, qui produit de la dette?
Il y a une machine qui tourne et qui produit de la dette. Et c'est précisément cet engrenage que vous venez de décrire fort bien qu'il faut rompre. Parce que il n'y a aucune raison pour qu'un pays démocratique, surtout un pays démocratique, accepte que les ministres dépensiers considèrent comme inévitable le caractère récurrent des dépenses qu'ils ont faites les années précédentes, et à quoi on ajoute bien entendu des programmes nouveaux. Et donc, dans un système budgétaire, me semble-t-il, conforme à la démocratie, c'est-à-dire à l'examen par les représentants du peuple, il faudrait faire des budgets qui seraient chaque année des budgets d'explication des priorités du ministère. Et il faudrait qu'un ministre ait à démontrer qu'il ne peut pas réduire le bloc de dépenses du passé qui est considéré un peu comme une donnée trop souvent, qu'il ne peut pas le réduire pour financer des programmes nouveaux, qui sont des programmes commandés par et l'actualité et la nécessité de développer le potentiel économique du pays. C'est comme ça que ça fonctionne dans une quantité de pays, par exemple au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, où ce sont des dispositions constitutionnelles. Un ministre n'a pas le droit de présenter un programme nouveau s'il n'a pas analysé et justifié devant le Parlement la permanence des programmes anciens. Et c'est un peu ce que nous préconisons dans ces recommandations du rapport, qui me paraissent, contrairement à ce que l'on peut croire quand on dit c'est encore un énième rapport qui sera mis sur l'étagère, je trouve que c'est vraiment une nouvelle conception de l'action publique qui consisterait à soumettre ces ministères dépensiers à la discipline que je viens d'indiquer. C'est fortement indiqué dans le rapport et c'est une préconisation, bien entendu, que l'on ne pourra introduire que graduellement, parce que ça suppose aussi, sur le plan de la méthodologie, une réforme. Mais je crois que vous avez mis le doigt sur un des problèmes essentiels. C'est le fameux problème des services votés, c'est-à-dire de ce qu'on ne peut pas toucher parce que c'est déjà acquis. En réalité, les services votés sont plus faibles qu'on ne le dit, et c'est pour ça que la marge de manœuvre des ministères est beaucoup plus grande qu'on ne le croit. On tend à dire c'est 80% qu'on ne peut pas toucher, donc il y a une toute petite marge. En réalité, c'est tout à fait différent. C'est le vrai inévitable, compte tenu des engagements passés, et de l'ordre d'un tiers des budgets. Et donc, il y a de la marge pour comprimer quand on doit comprimer, ou pour réallouer quand on doit réallouer.
Monsieur de la Rosière, nous allons marquer une toute petite pause, et j'invite nos auditeurs à nous rejoindre dans quelques secondes.
Vous écoutez Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Nous sommes en compagnie de Jacques de la Rosière, conseiller auprès de BNP Paribas et membre de la commission qui a rédigé un rapport sur la dette publique, un rapport qui a fait date et que nous commentons aujourd'hui. Est-ce que, pour revenir sur les dépenses publiques, est-ce qu'un des problèmes aussi de la dette publique n'est-elle pas que pour le moindre problème, l'on sollicite une dépense publique ?
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est ce que le titre du rapport reprend. Il dit « rompre avec la facilité de la dette publique ». Il y a en effet dans notre pays une tendance pour traiter un problème quand il se pose à, comme disent les Américains, à jeter de l'argent au problème.
Ça fait bon effet.
Et oui, c'est populaire. On dit « bon, on va donner des subventions à cette catégorie ou à ce secteur qui est affecté par tel ou tel problème ». Mais on ne se pose jamais la question de savoir quelle va être l'incidence de ce rajout de dépenses sur le déficit budgétaire et donc, en fin de compte, sur nos concitoyens qui auront à rembourser, ou en tout cas à servir le service de la dette, de l'endettement public français qui ne peut être que majoré par cette attitude. Donc je crois qu'il faut rompre avec cette facilité, c'est le mot facilité qui est contenu dans le rapport et qui est un mot clé, et considérer que, au niveau d'endettement où nous sommes, c'est-à-dire les deux tiers du produit intérieur brut, les 1 000 milliards et plus dont vous avez parlé, et probablement plus si on tient compte des retraites, d'une partie de la charge des retraites, il faut, je crois, rompre avec cette habitude et ne s'autoriser à traiter ce genre de problème ou d'à-coup par de la dépense supplémentaire que si on a préalablement fait le ménage dans le ministère des pensions en question et si le ministre est capable de dire « bon, ben, je repriorise mon dispositif et je réduis mes capacités d'action dans tel ou tel domaine qui sont moins prioritaires ». Alors ça, c'est une attitude qui est très peu française, la dernière, celle que je viens d'indiquer, mais c'est la seule qui permettra de faire ce qu'on dit dans le rapport, c'est-à-dire de réduire le niveau de la dépense publique de façon à atteindre, comme on le disait en début de conversation, l'équilibre du budget dans un délai de 5 ans.
Vous venez de le dire vous-même, c'est une attitude qui n'est pas très française. Il y a une sorte de, pour reprendre des clichés, une culture du service public est très très forte. On a du mal à voir les dépenses publiques être réduites, encore moins les dotations ministérielles. Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions alternatives que celle-là ? Une solution peut-être plus à long terme ?
Écoutez, il n'y a pas de 1 000 solutions. Ou bien vous augmentez les impôts, ou bien vous réduisez la dépense. Alors si vous augmentez les impôts, on peut toujours le faire. La France est un pays qui est déjà comparativement très imposé et vous savez que maintenant une grande partie, malheureusement une grande partie de notre jeunesse et de gens moins âgés et moins jeunes quittent le territoire national parce que la concurrence fiscale est un élément réel. Quand vous êtes surimposé dans un pays, il y a une tendance maintenant, avec la liberté de circulation des personnes et des capitaux, à émigrer vers des pays qui sont moins imposés. Et c'est toujours, évidemment, les gens qui ont le plus de capacité à innover, à gagner de l'argent, à réussir, qui sont l'objet de ces tentations d'émigration. Alors, c'est un jeu évidemment qui est très dangereux que celui de surcharger la fiscalité parce que le phénomène des vases communicants fonctionnera et on aura de moins en moins de masse imposable à imposer. Donc, je crois qu'au point où on en est, il faut garder le système fiscal ou la pression fiscale telle qu'elle est, mais ne pas l'augmenter. C'est d'ailleurs une des préconisations du rapport, c'est que pendant la période de 5 ans de remise en équilibre du budget, on ne réduit pas les impôts.
Ce qui était quand même la tendance actuelle.
Oui, ce qui était la tendance, mais je crois qu'il faut être sage et qu'il ne faut pas les réduire, même si ça a beaucoup de sens d'en réduire un certain nombre. Et,
pour l'instant, ce n'est pas raisonnable, oui.
Non, parce que si vous voulez faire ce qu'on a préconisé dans le rapport, c'est-à-dire ce 1,3% de réduction de la dépense publique, pour arriver à l'équilibre en 5 ans, ben, évidemment, si vous baissez les impôts, ça sera plus que 1,3% de réduction de dépenses. Donc on a voulu être modéré dans la réduction de la dépense publique, pour les raisons d'ailleurs que vous avez très justement indiquées vous-même, et qui tiennent au fait que les Français sont attachés à la dépense publique. Alors vous avez dit une chose qui me fait toujours un petit peu sursauter, vous avez dit la culture du service public. La vraie culture du service public, c'est pas de dépenser pour dépenser. La vraie culture du service public...
J'ai dit que c'était un cliché.
Oui, je sais, mais il est dangereux. C'est d'avoir justement une conception du service de nos concitoyens, parce que c'est ça le service public. C'est le service de nos concitoyens aux meilleures conditions de coût. Il faut toujours se dire qu'il y a quelqu'un qui paye un service public. Et ce quelqu'un, c'est l'usager, c'est le client, c'est le contribuable. Et donc, le devoir numéro un de celui qui se dit attaché au service public, c'est d'être sûr qu'il ne surdépense pas, qu'il ne gaspille pas la ressource publique. Parce que la ressource publique ne lui appartient pas. Elle n'appartient pas au fonctionnaire. Ce fonctionnaire en est le dépositaire sacré. Il devrait être un dépositaire sacré. Et donc, tout ce qu'on préconise ici pour améliorer l'efficacité de l'administration, pour éviter cet empilement dont vous parliez à juste titre, va dans le sens du véritable service public, qui est celui en tout cas que moi je comprends. Mais un service public qui dépense au fil de l'eau tant qu'il peut, c'est pas ma conception du service public.
Oui, avec certaines redondances même dans les différents services. Est-ce que pour se faire l'avocat de la dette, si l'on peut le faire, est-ce que la dette n'a pas une certaine utilité tout de même ? Dans les théories économiques, on voit que la dette peut amortir certains à-coups de la croissance. La dette, on peut dire aussi qu'elle peut avoir servi à certains investissements, à avoir financé une protection sociale qui était nécessaire en temps de croissance économique très faible.
Oui, alors tout ce que vous dites n'est pas inexact. La dette, elle a évidemment comme mérite de pouvoir accroître les actifs de la puissance publique, de pouvoir réaliser des investissements, de pouvoir, dans certains cas, vous l'avez dit, parer aux à-coups de la conjoncture. Et donc, il serait absurde de préconiser une dette zéro. C'est ce que ne fait pas, d'ailleurs, le rapport en question. Mais on en est très loin. Le problème en France, c'est que rien de ce que vous avez dit n'est vraiment une justification de la dette française telle qu'elle a évolué. Le rapport est très intéressant à ce sujet. Et à mon avis, il est assez neuf. Et d'abord, il montre que l'amortissement des à-coups conjoncturels, c'est-à-dire ce que nous disions tout à l'heure, en période de mauvaise conjoncture, on fait moins de recettes et on a plus de dépenses, et l'inverse en période de bonne conjoncture, c'est quelque chose d'assez limité en France. Dans les périodes de mauvaise conjoncture, le déficit accru, si vous voulez, qui est né de cette mauvaise conjoncture, est extrêmement faible, beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Peut-être parce que les autorités publiques ont moins de marge pour faire la politique keynésienne qu'on peut vouloir faire au-delà du stabilisateur automatique. Mais c'est très intéressant de voir que la dette joue peu ce rôle d'amortisseur des à-coups en France. La deuxième chose, c'est que la dette n'a pas servi, contrairement à ce qu'on aimerait croire. La dette n'a pas servi d'une manière substantielle à augmenter le patrimoine créateur et créatif de l'État. La dette n'a pas servi. Oui, la dette n'a pas servi à augmenter les investissements publics. La dette a servi essentiellement à financer les dépenses courantes, le paiement des fonctionnaires, etc. Ou les déficits de la santé. Et donc, il est à la fois illusoire et générateur d'une fausse bonne conscience que de se dire oui, mais c'est bien la dette parce que ça assure l'avenir des générations. En réalité, la dette est en train d'abîmer les générations futures parce qu'il faudra la servir. Et comme les populations actives, c'est-à-dire celles qui paieront les impôts, seront moins nombreuses du fait de du vieillissement de la population, on met à la charge des générations futures des coûts qui ne seront pas contrebalancés par des augmentations de production et donc de richesse dans l'avenir. Alors, je crois que cette dette n'est pas vraiment justifiée, du moins l'accroissement de cette dette n'est pas justifié, et si on continuait, on arriverait à ce que j'appelle des impossibilités mathématiques.
La France est quand même réputée pour être un bon payeur.
Oui, bien sûr, mais il est évident que dans la situation actuelle, cette perspective n'est pas en cause. Simplement, si on ne faisait rien, c'est-à-dire qu'on laissait les choses se développer...
On laissait la dette en roue libre,
oui, laisser la dette en roue libre. Alors, on a fait le calcul dans le rapport. Il faut des hypothèses, bien entendu. Il faut des hypothèses de croissance et il faut des hypothèses de taux d'intérêt. On a fait des hypothèses assez modérées, puisqu'on a retenu un taux d'intérêt réel de 2,5%, ce qui est modéré. Et on a retenu un taux de croissance qui n'est pas très pessimiste, puisqu'il est de l'ordre de 2% par an. Et vous voyez que la dette financière de l'ensemble des administrations, c'est-à-dire celle que l'on calcule pour Maastricht et dans le rapport, avec en plus un chômage qui serait à 9% à moyen terme, il est plus élevé aujourd'hui, vous arriveriez en 2049 à un peu plus de 400% du PIB comme montant de dette, et plus près de nous, mais quand même très près de nous, en 2025, vous seriez à 150% du PIB. Donc, ce sont des impossibilités mathématiques, parce que à 67% du PIB, il faut savoir que le service, vous l'avez d'ailleurs vous-même dit, de la dette, est le deuxième poste de la dépense publique. Il représente à peu près 3,5% du PIB, ce qui est considérable. Nous courons derrière 3% de PIB. Tout le monde dit, si on pouvait augmenter la croissance française, enfin avoir une croissance française de 3%, on réglerait les problèmes du chômage, on aurait enfin une économie qui fonctionnerait, disons à l'américaine, qui elle croit sur une pente de 3,5% par an. Et on oublie qu'on consacre déjà 3,5% de la richesse nationale, de ce qui est produit par les Français.
À rembourser la dette.
Non pas à rembourser.
À rembourser les charges.
Uniquement à payer les intérêts sur la dette, pas à rembourser.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas renégocier ces intérêts?
Mais non, parce que ces intérêts, ce sont ceux du marché. Il n'est pas question de renégocier une dette. Ou alors vous placez dans l'hypothèse à l'Argentine. Les taux d'intérêt aujourd'hui sont très faibles. L'État français n'a absolument pas à se plaindre de ses créanciers et des marchés financiers qui accordent finalement des taux d'intérêt très, très faibles aux États qui empruntent. Et donc, ce qu'il faut plutôt se dire, c'est que si les taux d'intérêt devaient monter, taux d'intérêt à long terme, qui sont historiquement, séculairement extrêmement bas aujourd'hui, alors les chiffres que je viens de vous donner seraient
énormément plus astronomiques.
Oui. Donc il faut faire attention et ne pas se dire, comme on s'est trop souvent dit, qu'au fond c'est bien commode d'avoir le molle oreiller, comme disait le grand auteur, de la sécurité de l'endettement.
Est-ce qu'une des façons d'amortir peut-être cette dette ou de la réduire au moins à la marge, c'est de permettre une évolution démographique autre, notamment grâce à l'immigration, par exemple?
Oui, je crois que vous avez raison. Moi, c'est un point de vue que j'ai souvent développé, qui n'est d'ailleurs pas vraiment développé dans le rapport, parce que les opinions sont divergentes sur ce sujet. Moi, je crois que ce qui fait la force d'une économie est son potentiel de croissance. Le potentiel de croissance, c'est la capacité d'une économie à se développer sans inflation sur le long terme et notre potentiel de croissance, il est inférieur à 2% aujourd'hui. Et aux États-Unis, il est de 3,5-3,7%. Ça fait toute la différence. Et une des raisons qui explique que les États-Unis sont en avance sur nous par rapport au potentiel de croissance, c'est précisément qu'ils ont une politique beaucoup plus ouverte sur l'immigration, même si une partie de cette politique est subie plutôt que vraiment active. Je parle de...
Qui fait que certains secteurs de l'économie vivent grâce à l'immigration illégale.
Absolument. Et c'est un apport, à mon avis, considérable dans l'économie américaine. Alors, il y a
qui existe aussi un petit peu en France.
Oui, mais moins, parce que aux États-Unis, il y a vraiment une immigration illégale qui remplit toute une partie, si vous voulez, des emplois non qualifiés, pratiquement au grand jour. Chez nous, c'est beaucoup plus réglementé. Donc, je crois que c'est un élément. Et d'autre part, les États-Unis ont une politique que moi, je leur envie. Que nous commençons d'ailleurs avec le gouvernement actuel à répliquer, qui est une politique d'immigration, alors elle volontariste, je ne parle pas de la première. Oui, c'est ça, de faire venir des gens.
Par secteur d'économie.
Ouais, par secteur d'économie, par spécialité, des gens dont on a besoin, des gens qui sont pointus en technologie. Et c'est d'autant plus nécessaire que nous avons, comme je le disais auparavant, des fuites de cerveau extrêmement importantes. Cette opinion n'est pas générale parce que quand on calcule économétriquement l'effet de cet accroissement de l'immigration sur, si vous voulez, la soutenabilité de la dette et la croissance, il y a des gens qui vous disent « oui, mais... dans un premier temps, ces gens-là que vous allez accepter vont charger les dépenses sociales, ce qui est vrai d'ailleurs, avant d'être vraiment productifs. Et puis, ils risquent, quand ils seront vraiment productifs, de s'en aller. Donc, il y a un certain nombre de raisons qui font qu'on ne peut pas très facilement quantifier l'apport de cette immigration. Mais moi, instinctivement, je pense que nous aurions intérêt à être beaucoup plus ouverts sur l'immigration. C'est une opinion qui en vaut une autre.
Pour être synthétique sur la question de la dette, est-ce que vous voyez un pays qui aurait réussi une telle réduction de la dette telle que vous la préconisez dans le rapport Pébro?
Ah oui, mais j'en vois beaucoup, oui.
On pense par exemple, ce qui a été fait au Canada est assez spectaculaire.
C'est très spectaculaire, je l'avais étudié et je peux vous donner en deux mots le résultat de cette politique. Le Canada avait une dette publique qui était de l'ordre de 35-40% de son PIB, c'est-à-dire que c'était dans les zones tolérables. Et en 1993, il a laissé les déficits filer, comme nous l'avons fait nous, et il est arrivé à 70% de dette publique sur PIB, c'est-à-dire un chiffre légèrement supérieur au nôtre. Alors, ils ont réagi et ils ont fait ce qu'on appelle le Fiscal Spending Control Act, la loi du contrôle budgétaire, de la dépense budgétaire. Et ils ont établi... c'est une forme de ce que nous proposons ici, un plafond nominal pour les dépenses publiques. Ils ont dit que les dépenses publiques ne devraient pas dépasser tant de dollars canadiens en valeur nominale. Et ils ont fixé ça sur une période 92-96. Et en plus, ils ont forcé leur système budgétaire à générer ce qu'ils appellent des contingency reserves, c'est-à-dire des réserves au cas où il y aurait des à-coups qui nécessiteraient des rajouts budgétaires incompatibles avec le plafond. Et s'il n'y avait pas ces contingencies, si elles n'étaient pas nécessaires, elles serviraient à réduire le déficit. Alors les résultats étaient spectaculaires. En 95, le déficit était de 5% du PIB. En 99, ça a été un surplus de plus 1. Et ça répond à votre question. Ils ont fait un renversement de 6 points de PIB, moins 5 à plus 1, en l'espace de 5 à 6 ans. Et leur dette est passée, donc, comme je vous le disais, de 70% à 52% de 95 à 2000. Donc, en 5 ans, ils ont réduit leur dette, si vous voulez, de près de 20 points de PIB. Donc, je pourrais vous citer la Nouvelle-Zélande, je pourrais vous citer l'Australie, je pourrais vous citer la Suède, la Finlande. Il y a eu beaucoup de pays, l'Irlande a été un exemple aussi. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont lutté contre... cette facilité et qui y sont parvenus. Alors moi, comme je suis français,
et la croissance est repartie en parallèle.
Et que je suis fier d'être français, je me dis si les Canadiens, les Néo-Zélandais, les Australiens, les Suisses, les Suédois, les Finlandais l'ont fait, je vois pas de raison au ciel pour lequel nous ne serions pas capables en France de le faire. Alors c'est peut-être une erreur immense de dire ça, mais ça fait partie de mes convictions profondes.
Sachant qu'un membre du gouvernement canadien, par exemple, dit que ce n'était pas un simple exercice budgétaire, c'était un vrai projet de société.
Absolument, il faut communiquer quand on fait ça, il faut expliquer. Et c'est ce qu'ils ont fait au Canada.
Monsieur de la Rosière, je vous remercie pour cette demi-heure passée à parler de la dette publique. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Elle sera bientôt en archive dans la médiathèque de Canal Académie. Bonne journée.
Merci beaucoup.